Chapitre 9. Catherine était trop malheureuse pour être accessible à la crainte. D'ailleurs, le voyage en lui-même n'offrait aucun danger et elle le commençait sans nulle idée de ce qui pouvait se présenter. Seule, placée dans un coin de la voiture, elle versait un torrent de larmes. La pointe du clocher de l'abbaye avait déjà disparu, qu'elle n'avait pas encore eu le courage de jeter les yeux de ce côté. La route qu'elle parcourait était celle qu'elle avait suivie si joyeusement 10 jours auparavant en allant à Wooston. L'amertume de sa douleur s'aigrissait lorsqu'elle reconnaissait les objets qu'elle avait vus avec des sentiments différents. Chaque mile qui la rapprochait de Wooston ajoutait à ses souffrances. Quant à la courte distance de 5 miles de ce village, on quitta la route pour prendre celle qui conduit à Fullerton, la pensée qu'elle était si près de Henry, qu'il l'ignorait, qu'elle s'en éloignait, la mit dans l'état le plus désolant. Le jour qu'elle avait passé chez lui avait été le jour le plus heureux de sa vie. C'était celui où, dans cet endroit, toutes les actions du général, toutes les paroles qu'il avait adressées, soit à son fils, soit à elle, avaient démontré qu'il désirait leur mariage. 10 jours se sont à peine écoulés et la voilà bannie sans savoir ce qu'elle avait fait ou omis qui méritât un tel changement, sans qu'on l'eût mise à même de pouvoir se justifier. Les pensées qui l'agitaient le plus, celles qui dominaient toutes les autres, provenaient de l'incertitude où elle était, de ce que penserait, de ce que dirait, de ce que ferait le lendemain Henri, quand, de retour à Northanger, il apprendrait qu'elle était partie et de quelle manière on l'avait renvoyée. Tantôt elle craignait qu'il n'y fût peu sensible, tantôt elle espérait qu'il en serait blessé. Mais elle était bien sûre qu'il n'oserait en parler à son père. Mais de quelle manière s'en entretiendrait-il avec sa sœur? Que lui dirait-il d'elle? Dans cette succession continuelle de craintes, d'espoirs, de doutes et d'inquiétudes, son esprit ne pouvait trouver aucun repos. Les heures se succédaient, le voyage s'avançait sans qu'elle s'en aperçût. La manière dont elle retournait à Fullerton ne pouvait qu'éteindre le plaisir qu'elle aurait dû éprouver à revoir après une absence d'11 semaines les personnes qui lui étaient le plus chères. Que pouvait-elle dire qui ne fût humiliant pour elle et pour sa famille? En racontant la cause de sa douleur, ne devait-elle pas en augmenter l'amertume? N'avait-elle pas à craindre d'exciter un ressentiment qui envelopperait l'innocent et le coupable? Pouvait-elle jamais trouver des expressions assez justes pour parler du mérite et des attentions de Henri et d'Éléonore? Pourrait-elle empêcher que ses parents ne prissent une opinion aussi défavorable d'eux que de leur père? Elle arriva à Fullerton entre 6 et 7 heures du soir. À la fin d'un roman, le retour d'une héroïne dans le village où elle est née est un événement capable d'exercer la plume d'un auteur. Il peut la peindre, élevée à la dignité de comtesse par le triomphe éclatant d'une beauté et d'une innocence reconnue, la représenter, arrivant dans une chaise de poste et accompagnée de nombreux et honorables amis, suivie de plusieurs femmes de chambre et de laquais. Il peut faire des descriptions brillantes, des scènes de reconnaissances et de tendresse, et répartir à chaque personnage, suivant son mérite, une part plus ou moins grande dans le bonheur commun. Ma position est malheureusement différente. Je ramène mon héroïne seule et humiliée. Je n'ai ni description de grandeur, ni pathos de sentiments à tracer. Je dois me borner à dire que son postillon traversa rapidement le village, en passant au milieu des groupes de paysans qui se trouvaient réunis parce que c'était dimanche, et qu'elle se hâta de descendre de voiture. Quelles furent ses angoisses lorsqu'elle arriva au presbytère? Qu'il serait pénible pour son historien d'avoir à les retracer. Rarement on voyait une voiture à Fullerton. À l'aspect de celle-ci, toute sa famille se mit aux fenêtres. Le plaisir brilla dans tous les yeux, toutes les imaginations furent en travail. Les 2 plus jeunes enfants, un petit garçon âgé de 6 ans et une petite fille de 4 ans, qui croyaient, lorsqu'ils voyaient une voiture, que c'était un frère ou une sœur qui leur arrivait, coururent à celle-ci. Heureux celui qui le premier reconnut Catherine. Heureux celui qui la nomma le premier. Entourée, caressée, elle fut un instant si heureuse dans l'effusion des sentiments de la nature que tous ses chagrins furent oubliés pour quelques minutes. Le plaisir de la revoir suffisait à ses bons parents. Ils furent longtemps sans penser à lui témoigner la moindre curiosité sur la cause de son retour. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine et après bien des hésitations que Catherine se décida à parler. Elle ne cacha rien de la manière dont le général en avait agi envers elle. Ses parents cherchaient, mais en vain, le motif d'un départ si précipité. Ils n'étaient nullement irascibles, ni disposés à se croire offensés. Néanmoins, dans cette circonstance, quand ils eurent entendu tout le récit de leur fille, ils trouvèrent dans la conduite de M. Tilney une insulte grave que, pendant la première demi-heure, ils regardèrent comme absolument impardonnable. Sans supposer de romanesque danger dans le voyage que leur fille venait de faire, M. et Mrs. Morland crurent qu'elle aurait pu éprouver bien des désagréments qu'ils n'auraient jamais voulu lui faire courir. Ils jugèrent que M. Tilney, en l'y exposant, n'avait agi ni en gentilhomme, ni en père de famille. « Je suis bien aise, dit Mrs. Morland, ne n'avoir rien su de cela avant votre arrivée. À présent que la chose est faite, il n'y a peut-être pas grand mal. Il est bon que les jeunes gens acquièrent un peu d'expérience à leurs dépens, et vous savez, ma chère Catherine, que vous avez toujours été une fille un peu étourdie. Maintenant que vous avez été obligée de vous conduire par vous-même, dans ces différentes circonstances, dans ces diverses maisons, vous serez devenue un peu raisonnable. J'espère que vous avez eu bien soin de tout ce que vous aviez, que vous n'avez rien perdu, rien oublié. » Catherine dit qu'elle le pensait. Elle forma le projet de chercher à se tranquilliser, elle ne pouvait le suivre longtemps. Elle désirait être seule, aussi accepta-t-elle avec empressement l'invitation que lui fit sa mère de se retirer et d'aller se coucher. Ses parents ne voyaient dans son trouble que l'effet naturel du ressentiment qu'elle éprouvait, des humiliations qu'elle avait eues à supporter et de la fatigue d'un assez long voyage. Ils se séparèrent d'elle en ne se doutant nullement qu'elle ne dut bientôt s'endormir profondément. Le lendemain, ils la trouvèrent beaucoup moins bien qu'ils ne l'avaient espéré. Cependant, ils ne conçurent pas le moindre soupçon sur la nature et la gravité de son mal. Ils ne pensèrent pas qu'il avait sa source dans son cœur. Ce soupçon eût cependant été assez naturel à des parents dont la fille revenait à l'âge de 17 ans après une première excursion de plusieurs mois. Aussitôt après le déjeuner, Catherine se disposa à exécuter la promesse qu'elle avait faite à Éléonore de lui écrire. Elle éprouvait déjà l'effet du temps et de l'éloignement sur la véritable amitié. Elle se reprochait d'avoir quitté froidement son amie, de n'avoir jamais bien apprécié son mérite et son attachement. Ses sentiments ne lui rendirent pas néanmoins plus facile la composition de sa lettre. Elle voulait exprimer l'étendue de son amitié, parler de sa reconnaissance sans laisser voir trop de regrets, de sa déférence sans froideur du passé et sans ressentiment. Elle voulait faire une lettre dans laquelle Éléonore ne trouva rien qui pût la peiner et dont elle-même n'eut pas à rougir. La pensée que peut-être Henri verrait cet écrit ajoutait à la difficulté. Après y avoir longtemps réfléchi et être restée dans une grande perplexité, elle ne trouva rien de mieux que d'écrire d'une manière simple et courte. « Quelle singulière liaison !» dit Mrs. Morland quand la lettre fut écrite. « Si vite formée, si tôt rompue, je suis fâchée qu'il en soit ainsi, car Mrs. Allen pensait beaucoup de bien de ces jeunes gens. Vous avez été aussi bien tristement trompé par votre Isabelle. Ah, mon pauvre James, nous apprenons à vivre. Il faut espérer que les amis que vous ferez à l'avenir seront plus dignes de votre amitié que les premières. » Catherine rougit et répondit vivement « Personne n'est plus digne que Miss Tilney d'inspirer une constante amitié. » Elle pensa aussi à Henri. Elle sentit que rien n'affaiblirait la tendresse qu'elle éprouvait pour lui. Le désir de le rencontrer se présenta à son esprit. À cette idée, ses yeux se remplirent de larmes. Sa mère lui proposa, pour la distraire, d'aller chez M. Allen. Elle accepta. La maison de ce dernier n'était distante de celle de M. Morland que d'un quart de mile. Pendant le chemin, la mère de Catherine lui dit tout ce qu'elle pensait sur la mésaventure de James. Catherine fut reçue par les Allen avec une tendre affection et un plaisir véritable. Ils furent très étonnés et très affligés d'apprendre comment elle avait été traitée, quoique le récit que Mistress Morland en fit fût extrêmement simple et qu'elle n'eût aucune intention d'exciter de ressentiment. « Catherine nous a surpris hier soir, » dit-elle. « Elle a voyagé toute seule et n'a su qu'elle devait partir que samedi dans la nuit, parce que le général Tilney, ou par caprice, ou par je ne sais quelle raison, s'est tout d'un coup trouvé fatigué de l'avoir chez lui et lui a fait dire de partir. Cela est vraiment bien peu amical, il doit être un fort sot homme. » M. Allen montra sur cette affaire le ressentiment d'un ami, et Mistress Allen, dont les idées n'étaient ni bien nombreuses ni bien variées, exprima son étonnement, répéta ses conjectures et finit chaque phrase par ces mots « À quoi pensait le général ?» En retournant chez elle, Mistress Morland s'efforça de persuader à sa fille combien des amis solides et affectionnés tels que les Allen étaient à conserver. Combien l'étaient peu les liaisons que les convenances de la société ou des plaisirs formaient. Elle dit que souvent celles-ci ne causaient que des peines et des regrets, ainsi que lui prouvaient celles qu'elle avait eues avec les Tilney. Il y avait infiniment de bon sens dans ses observations, mais il est, dans la vie, des situations d'esprit où le bon sens n'a aucun empire. Mistress Morland était sortie avec Catherine un jour après son arrivée. Elle fut très étonnée, en rentrant à la maison, d'y trouver un jeune homme qui lui était entièrement inconnu. Celui-ci se leva de l'air le plus respectueux et lui fut annoncé par Catherine toute tremblante comme M. Tilney. Avec tout l'embarras d'une véritable émotion, il commença par se justifier d'avoir osé se présenter chez elle, reconnaissant qu'après ce qui s'était passé, il n'avait aucun droit à une réception bienveillante à Fullerton. Il dit que l'impatience qu'il avait de savoir si Miss Morland était arrivée chez elle sans accident était la cause de sa visite. Il n'avait pas affaire à un cœur vindicatif et Mistress Morland, ne croyant ni lui ni sa sœur, coupable du mauvais procédé de leur père, avait conservé pour tous deux des sentiments de bienveillance. Elle fut mieux disposée encore en faveur de Henri par sa présence. Elle le reçut avec politesse et sans aucune affectation. Elle le remercia de l'attention qu'il avait pour sa fille et lui donna l'assurance que les amis de ses enfants seraient toujours bien reçus chez elle. Ensuite, elle le pria de ne plus parler de tout ce qui s'était passé. Il était très disposé à obéir à cette demande. Quoiqu'il fût extrêmement rassuré par un accueil aussi inattendu, il n'aurait pas été en son pouvoir dans ce moment de s'expliquer sur ce sujet. Il se remit sans rien dire sur son siège, répondit civilement aux observations que Mistress Morland lui fit sur le temps et sur la route. Pendant ce temps, Catherine, la tremblante, l'inquiète, la craintive, l'heureuse Catherine, ne disait pas un mot. Mais les couleurs dont ses joues se chargèrent, l'éclat dont ses yeux brillèrent, firent connaître à sa mère que l'effet de cette visite lui serait salutaire, au moins pendant quelque temps. Mistress Morland, qui désirait la présence de son mari, autant pour assurer M. Tilney sur leurs sentiments à son égard que pour avoir les moyens de soutenir la conversation, le fit appeler par un de ses enfants. Il n'était pas à la maison. Elle se trouva donc sans aide. Aussi, au bout d'un quart d'heure, elle n'eut plus rien à dire. Après quelques minutes de silence, Henri se tourna vers Catherine pour la première fois depuis que Mistress Morland était entrée. Il lui demanda avec vivacité si M. et Mistress Allen étaient alors à Fullerton et s'embarrassant dans d'obscures et insignifiantes explications, il annonça, ce qu'il aurait pu dire en deux mots, l'intention d'aller leur offrir ses respects. Se levant avec quelque trouble, il la pria d'avoir la bonté de lui indiquer le chemin de leur demeure.
« De cette fenêtre, monsieur, dit la petite Sarah, vous pouvez voir leur maison. »
Mistress Morland pensa que son désir n'était pas probablement de faire seulement une visite à leurs dignes amis, mais que peut-être il avait quelques explications à donner à Catherine sur la conduite du général. En conséquence, elle engagea sa fille à conduire elle-même M. Tilney chez M. Allen. Ils sortirent ensemble. Pour cette fois, Mistress Morland ne s'était pas trompée sur le désir qu'ils avaient tous les deux. L'intention de Henry était bien de donner à Catherine quelques explications par rapport à la conduite de son père, mais son objet principal était de lui en donner de relatives à lui-même. Ce fut par celle-ci qu'il commença, et ses explications furent telles qu'avant qu'ils fussent parvenus à l'enclos de M. Allen, Catherine pensa qu'il ne pouvait les répéter trop souvent. Elle recevait l'assurance de sa tendresse, il sollicitait le don de son cœur, qu'il savait depuis longtemps être à lui. Quoique Henri fût alors tendrement attaché à Catherine, qu'il appréciât ses excellentes qualités, qu'il aimât vraiment sa société, je dois convenir que cet amour ne fut dans l'origine que de la reconnaissance, ou en d'autres termes, que l'effet de la persuasion où il était qu'elle le préférait. C'est une circonstance assez commune dans le cours ordinaire des choses. La visite de Mistress Allen fut très courte. Henri parla peu. Ses paroles étaient sans suite, sans liaison. Et Catherine, absorbée dans la contemplation de son bonheur, ouvrit à peine la bouche. Ils se hâtèrent de sortir et de jouir du charme d'un tête-à-tête. Catherine fut en état de juger jusqu'à quel point il pouvait compter sur la sanction du général Tilney. Deux jours avant son retour de Houston, Henri rencontra son père près de l'abbaye. Il le trouva impatient de lui apprendre, dans des termes les plus amers, le départ de Miss Morland et de lui ordonner de ne plus penser à elle. C'était pourtant à la suite d'un ordre si positif que Henri s'était déterminé à venir offrir sa main à Catherine. Celle-ci, au milieu des terreurs que lui inspiraient ces détails, admirait la tendre délicatesse de M. Tilney, qui lui avait fait l'aveu de son amour et demandé sa main avant de lui laisser connaître la volonté du général. Henri lui expliqua ensuite les motifs de la conduite de son père. Elle eut une vive satisfaction d'apprendre qu'il ne savait rien des soupçons qu'elle avait eus sur lui, qu'il ne l'accusait de rien. Elle était involontairement, et sans même qu'elle le sût, l'objet d'une erreur que, par orgueil, il croyait ne pouvoir pardonner, tandis qu'un orgueil mieux entendu aurait dû contribuer à l'en préserver. Elle n'était à ses yeux coupable que d'être moins riche qu'il ne l'avait cru. D'après une fausse opinion qu'il avait eue de son bien, de ses espérances, il l'avait recherchée à Bath, il l'avait engagée à venir à Northanger et l'avait destinée à être sa bru. Quand il reconnut son erreur, il ne trouva rien de mieux à faire que de l'éloigner promptement de Northanger, quoique ce fût, selon lui, une faible preuve de son ressentiment contre elle et de son mépris pour sa famille. C'était John Thorpe qui d'abord l'avait trompé. S'apercevant un soir au spectacle que son fils s'occupait beaucoup de Miss Morland, il avait par hasard demandé à Thorpe s'il savait de quelle famille elle était. Celui-ci, heureux et vain d'être en conversation liée avec un homme de l'importance du général, fut très communicatif mais très peu exact. L'espérance que la famille concevait du mariage prochain d'Isabelle avec Morland, celle qu'il avait lui-même d'épouser Catherine, pour laquelle il avait du goût, firent que dans ces détails, il représenta la famille Morland comme étant dans la position la plus brillante et l'état de Catherine comme devant être plus brillante encore par les espérances que lui donnait l'amitié que les Allen avaient pour elle. Sa vanité l'engageait toujours à augmenter la fortune des personnes avec lesquelles il avait une liaison. Depuis qu'il savait que son ami Morland prétendait à la main de sa sœur, il ajoutait chaque jour aux avantages qu'il lui supposait
Il doublait ceux qu'il lui connaissait et ceux que, selon lui, il attendait de son avancement. Il triplait sa fortune particulière, lui supposait une tante très riche dont il devait hériter, et pour rendre l'héritage plus considérable, il diminuait le nombre des enfants de M. Morland. De cette manière, il présenta au général cette famille sous le jour le plus avantageux. Quant à Catherine, l'objet principal de l'attention et des calculs du général, John l'enrichit plus encore d'après ce qu'il disait. Les 1 000 ou 1 500 pièces que son père lui donnerait en mariage ne seraient qu'une petite somme en comparaison de celle que Mistress Allen y ajouterait. L'amitié que celle-ci et son mari avaient pour Mistress Morland faisait croire qu'elle aurait toute leur fortune. Il ne la nommait que l'héritière de Fullerton. C'était d'après ces renseignements que le général avait agi. Il n'avait nulle raison de douter de la vérité de ces détails. D'un côté, il pensait que la famille Thorpe, au moment de contracter une alliance avec celle des Morland, que John avait d'épouser Catherine, espoir dont le premier parlait ouvertement et avec présomption, semblait suffire pour prouver qu'il connaissait la vérité. Il ajoutait que les Allen étaient très riches et sans enfants, que Miss Morland était l'unique objet de leur affection, que, connaissant leur tendresse pour elle, il avait pensé à la rechercher en mariage. Le général, en remerciant M. Thorpe de ses intéressantes communications, forma aussitôt le projet d'en profiter pour réunir les prétentions de l'orgueil et les intérêts de son fils. Catherine, alors, ne savait pas plus que les enfants du général tout ce qui se passait. Ceux-ci ne pouvaient concevoir quelle était la cause des attentions et du respect que leur père témoignait à Miss Morland. Ils en avaient été surpris dans l'origine. Il était plus encore de voir que chaque jour, il ajoutait aux égards qu'il avait pour elle. La recommandation qu'il avait si expressément faite un jour à son fils de faire tout son possible pour plaire à Miss Morland avait bien dénoté quelque intention secrète. Henry avait conjecturé que son père pensait qu'elle serait un parti avantageux pour lui, mais jusqu'au moment où il venait d'avoir la dernière explication à Northanger, il n'avait pas eu le moindre soupçon des faux calculs sur lesquels son père fondait son espoir. C'était Thorpe lui-même qui avait détrompé le général. Celui-ci l'avait rencontré à Londres, et John, sous l'influence des sentiments qu'il avait alors et qui étaient entièrement opposés à ceux qu'il avait eus lorsque, pour la première fois, il avait parlé de Catherine, offensé du refus de celle-ci et plus encore de l'inutilité des efforts qu'il avait faits pour opérer une réconciliation entre Morland et Isabelle, convaincu qu'ils étaient séparés pour toujours, John, enfin, qui méprisait une amitié qui ne pouvait plus lui être d'aucune utilité, se hâta de démentir tout ce qu'il avait dit d'avantageux sur la famille Morland. Il avoua qu'il avait été absolument dans l'erreur sur la fortune et les espérances qu'il lui avait crues. Il dit avoir été trompé par les rodomontades de son ami, qui lui avait fait à croire que son père était un homme d'importance et fort riche, mais que les événements survenus pendant les 3 dernières semaines lui avaient fait acquérir la preuve qu'il n'en était rien. Qu'en conséquence, le mariage projeté de sa sœur et de James, mariage presque arrêté entre les deux familles, avait été rompu sur la connaissance que lui, John, s'était procuré que M. Morland était dans l'impuissance de donner aux jeunes gens de quoi vivre, même le plus simplement du monde. C'était une famille pauvre, chargée d'un grand nombre d'enfants, peu considérée dans le voisinage, ce qu'il avait vérifié lui-même en dernier lieu, vivant d'une manière qui excédait ses moyens, recherchant la société des personnes riches pour elle, enfin c'était des gens intrigants, présomptueux et peu estimables. Et les Allen ? Demanda le général stupéfait. John détruisit encore l'erreur dans laquelle il l'avait jeté de ce côté. Depuis qu'il les connaissait mieux, il avait découvert quel était le jeune parent, auquel devait revenir leur héritage. Le général ne demanda rien de plus, il était en colère contre tout le monde et contre lui-même. Il partit le jour suivant pour l'abbaye et nous avons vu ce qu'il était venu faire. Henri fit connaître qu'il avait déclaré avec fermeté à son père qu'il n'aurait pas d'autre épouse que celle qu'il lui avait précédemment ordonné d'aimer. Le général était terrible dans sa colère, il avait menacé son fils et tous deux s'étaient séparés dans l'état le plus violent. L'après-midi du jour suivant, Henri était parti pour Fullerton.